France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, dans le cadre de la journée initiale BD, France Inter fête la bande dessinée à l'occasion du prix BD FNAC France Inter. On reçoit donc un artiste qui aime brouiller les pistes, un auteur qui dessine, un illustrateur qui raconte, un musicien qui observe et parfois, tout ça en même temps, Théophile Sutter fait partie de ces créateurs qui refusent de se laisser enfermer dans une case. En quelques années, il a signé un livre de cuisine qui parlait surtout d'amitié et de banquet, un album jeunesse philosophique sur l'honnêteté, un abécédaire musical pour enfants, un recueil de confessions anonymes, une BD sur le vin et aujourd'hui, Carréman, une satire féroce et absurde de l'ego, d'Hollywood, du succès et de notre époque. Ses références vont de la bande dessinée populaire à la musique folk, de l'esprit harakiri à la chanson. Pendant cette émission, on va donc parler de création, de musique, de fête, de satire, d'enfance, d'image, de célébrité et de ce besoin vital de raconter le monde autrement. Théophile Sutter est avec nous à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Bonsoir Théophile.
Bonsoir.
Ça va?
Et vous?
On peut se tutoyer.
Ouais, ouais.
Si
pardon,
ça te va.
Excusez-moi.
Non, non, on fait comme tu veux. Après, si tu veux me vous voyez, on peut se vous voir.
Non, non, tutoiement, c'est super.
Mais moi, je préfère.
Comment ça va? Bonne année.
J'ai l'impression d'être trop vieux, sinon.
Bonne année à toi.
À toi aussi. À toi aussi. Tu sais que pour nous, c'est toujours compliqué parce que nous, animateurs, journalistes, on aime toujours mettre des étiquettes sur les gens. Tu sais, c'est compliqué quand il y a trop de choses. Et toi, t'aimes bien en faire.
Ouais,
plein
ouais.
de choses différentes, justement. Ouais. Est-ce que le plus naturel, c'est quoi? C'est qu'on te présente comme un auteur, comme un musicien, comme un, quel est le premier, la première description que tu aimes mettre en avant, toi?
C'est compliqué.
Tant pis qu'il y en ait une.
Parce que il se trouve que j'ai été attiré par l'art au début par la musique, par le biais de la musique. C'est la première chose que j'ai découverte. Et ensuite, je me suis intéressé au dessin et la vie a fait que j'ai pu m'exprimer dans le dessin récemment plus que dans la musique.
Ouais. Mais t'as pas forcément commencé par le dessin, en fait. C'est venu en même temps,
c'est
dans l'enfance.
Comme tous les enfants, j'ai toujours un peu dessiné.
Ouais.
Mais c'est vrai que la plus grande claque que je me suis prise l'âge de l'adolescence, c'était vraiment la musique.
Okay.
Et le dessin est venu un peu de manière. C'est des arts qui sont quand même assez proches, notamment la BD, la musique pop et tout ça. C'est des univers qui se croisent. Mais du coup, je suis passionné par les deux, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire un choix.
La claque musicale à l'adolescence, c'est quoi? C'est quels artistes? C'est quels albums?
Alors, moi, c'était, je viens de la génération, en fait, qui s'est un peu retournée vers le passé. Et du coup, c'était vraiment la musique des années 60, notamment les Beatles.
Ouais.
J'étais un immense maboule de ça. Je suis toujours.
Ouais, on va en parler après, mais
Et donc, tout le son, 60, 70, 80. Et en fait, je me suis un peu arrêté à la décennie où je suis né, à savoir les années 90, même si je suis revenu plus tard. Mais c'est vrai que les premiers chocs, c'était les années 60-70, quoi.
Il y avait presque une forme de nostalgie d'une époque que t'avais pas connue.
Exactement,
aussi.
Exactement.
Okay, t'avais
exactement.
Ce truc-là.
Ouais, ouais.
Alors, je crois que ta mère dirige une revue, ton père est psychologue
quand
tu travailles. Ouais. Est-ce que t'as l'impression que ça t'a donné, je sais pas, tôt, peut-être le goût des mots, en tout cas, la volonté d'observer un peu les comportements humains?
Peut-être. Mon père m'a vraiment transmis l'amour de la musique, c'est sûr, parce qu'il était lui-même musicien. Et ma mère, elle a travaillé aussi dans la presse avant, donc il y avait effectivement quelque chose qui avait rapport aux mots. Et c'est vrai que tout ce que je fais, que ce soit le dessin ou la musique, ça passe par les mots, en fait. En fait, je me sers du dessin et de la musique pour habiller, en fait, un peu ce que j'écris, et voilà.
Alors, je crois que t'as fait un premier recueil manuscrit, 1000 ans. De poésie, de prose, avec Théophile Sutter.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que c'est quand même assez atypique.
Énorme lol. Non, je sais pas d'où t'as cherché ça.
J'ai des équipes d'experts sur le coup.
C'est une information que j'essaie de faire disparaître.
Je suis désolé.
Oui, effectivement, j'ai écrit mon premier recueil de poèmes à 6 ans. Ça s'appelait...
Ça, c'est incroyable, quoi.
Ouais, ouais. 1000 ans de prose et de poésie avec Théophile Sutter. Ce qui avait beaucoup fait rire mes parents à l'époque. Et c'était effectivement un recueil que j'avais donc des petits poèmes qui étaient un peu illustrés d'ailleurs.
Déjà que toi-même tu illustrais
De manière très sommaire, mais voilà.
Et tu les as encore sur. Est-ce que tu penses que ça avait de la valeur ou pour toi c'est vraiment des choses d'enfant que tu mets un peu sous le tapis aujourd'hui
Alors ce qui est marrant c'est que j'ai retrouvé ce truc récemment en déménageant.
Ok.
Ce recueil que j'ai gardé, enfin c'était un truc manuscrit et il y avait. Donc j'ai dû écrire ça vers 6 ans et à 10 ans je l'ai retrouvé, à la fin j'ai écrit c'est de la merde tout, si tu trouves ce truc brûle-le, enfin machin, et après il y avait une autre page où à 17 ans j'écris magnanime avec ce petit con de 10 ans qui critique celui qui était à 6 ans.
Ok.
Bref, bon, donc c'est bon, enfin voilà, c'était un premier essai qui n'avait pas grand intérêt.
Quoi. C'est aussi un point de départ quelque part.
Oui, bien sûr.
Tu voyais
bien
pas comme ça évidemment à 6 ans, mais mine de rien, ça raconte quelque chose sur ce que tu es aujourd'hui.
Ouais. Mais je me souviens que j'avais écrit dans la fiche là au début de l'année, qu'est-ce que vous voulez faire comme métier plus tard, j'avais écrit poète.
Oui.
En
CE1, je crois, c'est ce que. Enfin, on a tout. Non, mais
d'accord,
vraiment, j'ai des. C'est la CIA.
Ok, sur
le je te le dis. Et non, mais ça, c'est vous, c'est-à-dire que t'avais cette envie d'être. Ouais. Souvent, quand on est petit, c'est on veut être policier, pompier, Indiana Jones. Toi, tu voulais être poète.
Ouais, j'étais. Ouais, la poésie, c'est un truc qui m'a. Même si je suis pas aujourd'hui quelqu'un qui lit de la poésie de manière assidue.
Ouais, mais on peut en trouver ailleurs, peut-être la musique, mais justement.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que là, c'était le premier métier que j'ai voulu exercer, poète.
Je crois qu'il y a aussi, alors évidemment, dans ton rapport aussi à la bande dessinée, il y a des gens importants que tu as découverts, notamment quelqu'un qui a eu beaucoup de succès ici, c'est Riyad Sattouf.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a autant plu chez lui dans ses œuvres?
Alors déjà, je me souviens de la sensation, c'était le même genre de claque que quand j'ai découvert les Beatles ou Daft Punk ou des trucs comme ça.
Ouais.
Vraiment la sensation de découvrir quelque chose d'extrêmement important, et surtout ce qui était précieux, c'était que je l'ai découvert au moment où c'est sorti, en fait, contrairement
donc tu vivais ce moment-là. Ouais.
Et j'ai l'impression d'avoir suivi son parcours parce que bon, maintenant c'est une énorme star et tout, mais à l'époque c'était un petit gars qui déboulait et j'étais là, mais putain. Et c'est lui qui m'a donné vraiment envie de dessiner, avec le premier truc que j'ai lu, c'était le retour au collège.
Retour au collège, ouais.
J'avais adoré ce truc, j'avais le dessin et tout, c'est magnifique. Et ensuite, claque majeure, c'était Pascal Brutal.
Très drôle.
C'est génial. Enfin, pour moi, c'est, voilà.
Tu veux dire que c'est une influence dans ce que tu fais aujourd'hui ou pas forcément?
Ouais, je pense. Parce que j'aime beaucoup cette manière qu'il a dans cet album de mélanger de la fiction, de la fantaisie à quelque chose de très, beaucoup plus politique et descriptif du monde dans lequel on vit. Et c'est pas trop lourd en truc social et tout, mais c'est pas non plus de la science-fiction qui se barre. Quand ça se barre un peu trop dans la science-fiction, j'ai tendance à décrocher.
Ouais, ok.
Et là, je trouve qu'il y a un mélange qui est absolument parfait. Puis bon, c'est d'une drôlerie. J'ai jamais autant ri en lisant un album de BD, je pense.
Je crois que tu cites aussi Matt Groening, donc qui est quelqu'un connu notamment pour les Simpsons, évidemment. Mais toi, tu cites surtout la période Life in Hell, qui est un peu moins connue des néophytes comme moi. Qu'est-ce que ça raconte, ça, cette période-là?
Alors déjà, il y a une liberté dans le trait qui est absolue. C'est vraiment des petits crobards. C'est très ça donne envie de dessiner parce qu'on se dit, bon, franchement, s'il a réussi.
Oui, ça semble accessible.
Il y a un côté dans le dessin qui est très libre et très accessible.
Mais d'ailleurs, excuse-moi de te couper, est-ce qu'il y a un moment où tu dis je dessine bien ou c'est quelque chose qui devient naturellement? Parce que c'est. Moi, j'ai toujours été très mauvais en dessin, par exemple. Donc, quand j'étais petit, j'étais un peu jaloux des gens qui vraiment savaient bien dessiner. Est-ce que toi, il y a un moment où tu dis, bon, bah, en fait, là, je suis quelqu'un qui dessine bien, ou est-ce que justement c'est ce côté accessible que des dessinateurs comme ça t'ont peut-être donné la confiance en toi?
Alors quand j'étais gosse, j'étais un peu le mec qui était un peu chaud en dessin et tout.
Ok.
Et quand je suis rentré dans l'école que j'ai faite qui s'appelle
Penningen,
qui est une super école, j'ai très vite compris qu'en fait j'étais
pas aussi chaud
assez
que
mauvais. et en fait c'était des heures et des heures de dessin. On dessinait des plâtres, des nus et tout ça, des trucs très très académiques, très à l'ancienne. Et j'étais nul, et je me disais, mais putain, est-ce qu'à un moment je vais bien dessiner, en fait? Est-ce qu'il y aura un moment où la bascule va se faire? Et en fait, j'ai jamais réussi à avoir ce niveau photographique, académique. Mais je pense que par contre, j'ai trouvé un style qui m'est propre et que j'arrive à. J'ai dû inventer ma langue et pas apprendre celle de la
carrière. Comme un Matt Groening, justement.
Exactement.
Cette espèce de liberté.
C'est de trouver un chemin qui permet de. Voilà.
Bon, je propose qu'on écoute un morceau qu'on n'a pas choisi au hasard, puisque on va évidemment parler de Carréman, qui se passe à Hollywood, en Californie, et donc on avait envie de se mettre un classique, Bobby Womack, California Dreamin', parce que c'est juste génial. On écoute ça, et puis juste après, on se retrouve avec Théophile Suter.
Went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in LA. California dreaming on such a winter's day.
Bobby Womack, California Dreamin'. Bon choix, tu me disais, Théophile.
J'adore. Je suis fan de cette chanson et fan de cette version.
Bon, parfait. On se retrouve tout de suite donc avec Théophile Sutter.
France Inter. Mehdi Maizi. À la régulière.
Théophile, d'ailleurs, qui, on l'a dit, fait de la musique qui nous gratifiera d'un live dans quelques minutes. Merci pour ça. Mais justement, on va parler de l'actualité. C'est la BD Karéman. Ouais. Donc, qui se passe. Karéman, c'est une star hollywoodienne, milliardaire, narcissique. Ouais. D'où vient ce personnage et d'où est venue cette volonté aussi d'investir ce terrain, le terrain d'Hollywood, du cinéma, des réseaux sociaux, de la célébrité. Comment t'as eu envie d'aller sur un terrain qui est différent de ce que t'avais abordé dans le passé.
Anecdote. Ce personnage est né complètement par hasard lors de mes études à Penningen, justement.
Ok. Où je... Donc ça date. Tu l'as depuis longtemps.
Ouais, ça date. Ouais. Ça date. C'était un truc. En fait, j'attendais d'avoir un peu que ce soit le bon moment pour le sortir parce que c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et en fait, il y avait un cours d'animation où il fallait animer un carré. J'étais nul en animation. Du coup, j'ai imaginé la vie hors champ de ce carré qui était à l'écran. Je me suis dit que c'était une sorte de star, machin. Donc le personnage de Karéman est né comme ça. Et en fait, après, j'ai tiré le fil du thème de la célébrité, du cinéma, parce que bon, je suis quand même assez, je suis cinéphile,
ouais.
Cinéphile coupable. Et du coup, c'était vraiment l'idée de jouer avec ce monde que j'aime. Puis la Californie et Los Angeles, c'est un endroit où je n'ai jamais mis les pieds, mais qui me fascine complètement.
Mais qu'est-ce qui te fascine? En plus, qui est jamais allé, donc qu'est-ce qui qui t'attire autant là-dedans? C'est justement, c'est un fantasme, plus que la Californie en elle-même?
Ouais, je sais pas, il y a un truc, le cinéma, Hollywood et tout ça, la musique, bon, je trouve que c'est incroyable. Il y a ce côté un peu terre promise, soleil. Et en fait, quasiment, toutes les œuvres qui m'ont le plus parlé dans ma vie viennent de là. Et je pense que j'ai même pas vraiment envie d'y aller. J'ai peur d'être déçu.
Ouais, que ça casse quelque chose.
Voilà. Mais et j'avais envie de m'amuser en fait et de traiter la Californie comme un monde imaginaire dans cette BD. Donc il y a un peu des clichés, genre les palmiers, les grosses bagnoles et tout ça, les avenues et tout. Mais je voulais rester dans quelque chose qui soit assez onirique, en fait. Mais voilà, c'est un univers mental qui m'obsède, quoi.
Bon, d'ailleurs, la BD contient un QR code qui renvoie à un morceau qui s'appelle « Aller à L.A.
»
qu'on peut écouter tout de suite.
Yes.
Aller à L.A. Aimer la ville pour ce qu'elle est. Y a tant de joie, tant de tristesse à Los Angeles.
C'est quoi les œuvres qui justement t'ont donné un peu cet amour, en tout cas ce fantasme de la Californie? Est-ce qu'il y a des films justement, des albums, des artistes?
Alors en musique, il y a à la fois la scène folk de Laurel Canyon, les James Taylor, tout le soft rock, tout le Hall & Oates et compagnie, même si je pense qu'ils sont new-yorkais, mais le son, Philadelphie, le son très beau, qui a donné après le gangsta rap qui sample ça.
Bien sûr.
Que j'adore, que je préfère au rap new-yorkais, par exemple.
En gros, était plus Dr. Dre que...
Ouais, 100%.
Ok.
100%. Et les Eagles, enfin tous ces groupes, Crosby, Stills & Nash, ce mélange de soul, de folk, de tout ce qui est solaire, lumineux, les Beach Boys, évidemment, bon, je suis un gros fan. Et en cinéma, c'est inépuisable. Enfin, je veux dire.
Oui, c'est une œuvre. C'est un endroit qui a été.
C'est la ville du cinéma, quoi. Je veux dire.
Ouais. Et qui a été beaucoup filmé aussi.
Ouais. Et que ce soit Terminator
le premier auquel je pense, quand c'est Mulholland Drive, je crois.
Ah oui.
Je pense à le premier, comme c'est pas forcément le plus identifiable, mais c'est vrai que quand je pense à Californie au cinéma, c'est le premier qui me vient à l'esprit ça, qui a été magnifiquement filmé.
Ouais, bien sûr. Et puis même les films de Tarantino, même si ça fait un peu tarte à la crème, mais j'adore ce réel, en vrai.
Ouais.
Et j'ai un gros faible pour les films où il y a une scène de diner à LA. Ça me fait péter un câble direct.
En plus, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. Ouais, les diners, c'est vraiment quelque chose de très folklorique, en fait.
Exactement. Donc j'ai essayé de mettre un peu de ça dans la BD. Il y a une scène dans un diner, il y a une scène dans un club de folk.
Ouais.
Donc voilà, c'est à la fois la musique, le cinéma et le, cette espèce de fantasme de l'été éternel et tout ça.
Puis dans la BD, il y a aussi toutes les couleurs, même aussi orangé, violette de Los Angeles, justement. Exactement. Ça aussi, c'est des choses que tu mets dans cette œuvre-là.
Ouais, bah oui, j'essaye de toujours de réfléchir à tous les aspects d'un album, que ce soit, bon, évidemment, le dessin, le scénario et tout ça, mais aussi la couleur, le papier, le format. Et là, j'ai fait le choix d'avoir une gamme assez réduite en Pantone. Je sais pas si tu vois ce que...
Alors, moi, je suis daltonien. Ouais, donc vraiment, j'y comprends rien. Ouais. Mais c'est intéressant, malgré tout.
En fait, les Pantone, c'est une encre qui permet d'avoir des tons très, très francs, voire un peu fluo.
Ouais.
Et donc, je suis resté dans une gamme qui est à la fois un peu celle du drapeau américain, donc bleu, rouge et tout ça, et celle des couchers de soleil, donc quelque chose de très pop. Et donc voilà, et en fait du coup je trouve que ça donne une espèce d'unité à l'album et une force graphique qui est un peu... J'essaie toujours de penser aussi un peu comme si c'était des affiches presque, tu vois, le moins d'éléments possible, et quelque chose qui soit identifiable.
Tout de suite.
Ouais.
Théophile Sutter est avec nous jusque 23h. Théophile, t'as dit à plusieurs reprises depuis le début de la discussion, t'as utilisé le terme pop, qui est un terme évidemment qu'on connaît tous, et c'est pas, genre, on a le sentiment aussi que dans ton œuvre, il y a vraiment cette volonté-là. Tu cites Tarantino, qui est vraiment quelqu'un qui mélange justement énormément de références pop, justement qu'elles soient musicales, cinématographiques. Est-ce que c'est comme ça aussi que tu conçois un peu ton art à toi, c'est-à-dire comme un peu un patchwork de plein de références différentes? J'ai l'impression que c'est aussi comme ça, la manière dont t'en parles, qu'il n'y a pas de... comment dire, de hiérarchie dans les cultures, dans les œuvres, et que tu vas un peu mélanger tout ce qui, toi, t'a nourri.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je trouve que, moi, je mets pas du tout de, je considère qu'il n'y a pas de hiérarchie vraiment dans ce que j'aime. Enfin, pour moi, la peinture, ça, par exemple, ça peut côtoyer la bande dessinée ou la musique. Enfin, je ressens des émotions quand je suis confronté à des œuvres, et ces émotions sont pas quantifiables, donc voilà. Et c'est vrai que j'essaie toujours de faire un peu des clins d'œil à ce qu'on appelle des easter eggs, notamment dans l'album il y a beaucoup de petites références à des choses qui m'ont inspiré et que j'aime, et il y a aussi même des clins d'œil à des amis en fait, dont le travail me parle et qui sont pas forcément aussi connus que des gros américains.
Oui, bien sûr.
Mais voilà, il y a une petite référence à mon ami Sylvain Rabat, un jeune groupe qui s'appelle Please. Et alors, on voit leur nom un peu dans des trucs, faut un peu chercher, mais
ça, c'est aussi quelque chose pour le coup qui vient peut-être aussi un peu du cinéma. Il y a tout souvent parfois au cinéma des références comme ça, un nom de restaurant qui en fait
exactement.
Est une référence à un film ou à voilà.
Bah, en gros, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça dans l'album, je me suis fait plaisir.
OK.
Même quand c'est une adresse, c'est l'anniversaire d'un pote ou un truc comme ça.
OK. Je disais que Avant ça, t'as fait évidemment d'autres choses, notamment Banquet, qui est né, je crois, pendant le confinement, et qui est vraiment une œuvre aussi assez particulière. Comment c'est né, ça, justement? Est-ce que c'était aussi lié à cette période très particulière, justement, la Covid, le confinement? Comment t'as voulu faire ça?
C'est vraiment né, comme souvent, en fait, j'aime bien me laisser guider par le hasard et l'intuition.
Ouais.
En fait, j'adore être ce que je préfère quand je crée. C'est d'être surpris par ce que je fais, de me dire j'aurais pas pensé faire ça un jour. Et là, il se trouve qu'il y a eu le confinement, ça c'était le contexte, et mon ami Roland qui est toujours chef m'a proposé ce projet parce que lui il était au chômage technique.
Ouais.
Et en fait on s'est retrouvé dans l'usine d'un autre ami à faire ce projet un peu sans aucun but, quoi. Et il se trouve que assez rapidement, quand j'ai commencé les dessins et que j'avais le personnage de Roland sous les yeux et tout, je me suis dit qu'il y avait vraiment un énorme potentiel. Et on a pris un plaisir dingue à faire ce bouquin qui, en fait, a été ma porte d'entrée dans le milieu d'édition, parce que c'est la première BD que j'ai publiée.
Exactement.
Et en fait, le fait que ce soit dans le milieu de la cuisine, qui est aujourd'hui un milieu très, avec ses références et tout, moi je suis pas du tout un foodie.
Oui, c'est la question que je vais te poser. Est-ce que t'es là-dedans à la base ou même pas spécialement?
Disons que j'adore manger, que j'ai même tendance à parfois avoir un peu de mal à me réfréner, mais je suis pas du tout un mec qui ponce ça sérieusement comme un... Il y a des geeks de la cuisine dont j'en fais pas partie, mais Roland, lui, c'était une ode à ce mec-là qui est vraiment un personnage un peu larger than life, au sens propre comme au sens figuré. Bizarre, Roland. Et en fait, voilà, c'était une sorte de cri d'amour pour lui, voilà. Et en fait, c'était un prétexte pour faire des dessins et de l'humour. Parce qu'il y a des recettes, mais Il y a aussi beaucoup de blagues. Enfin, c'est un livre.
Tu dis qu'il y a, il y a finalement plusieurs projets qui partent comme ça d'une intuition, mais Karéman, tu l'as depuis longtemps en tête. Ouais. Est-ce que celui-là, il est un peu différent de tes autres projets justement parce que tu tiens depuis combien de temps d'ailleurs?
Carrément. Je sais même pas. Dix ans quoi. Ça fait 10 ans que je l'ai sous le coude. Je l'ai sorti. J'ai fait une première version auto-éditée qui était mon premier album que j'ai fait en entier. Et que j'avais envoyé à des éditeurs à l'époque, ça n'avait pas fonctionné.
Ouais.
Et en fait, je remarquais que déjà mes amis réagissaient, qu'il y avait un potentiel sympathie chez Karéman qui était assez élevé, et je m'étais vraiment amusé à le faire. Et en fait, j'attendais à la fois de m'installer un peu, de faire des albums qui me permettent de présenter mon travail au public.
Ouais.
Et pour avoir un peu la liberté de faire quelque chose qui sorte un peu du cadre, parce que Banquet c'était confortable, parce qu'il y a la bouffe en fait, ça rapporte quand même, ça connecte avec les gens très rapidement. Le vin c'est pareil.
Tu as fait autre chose sur le vin, bien sûr.
Mon album Inavouable, il y avait un pitch qui était très efficace et qui m'a permis de présenter l'album. Et là je prends quand même un peu plus de liberté, c'est un peu plus un album risqué. Et j'avais envie d'être suffisamment confiant pour me lancer dans ce projet quoi.
Est-ce que Karéman, comme tu travailles depuis longtemps, est-ce qu'il est amené à revenir ?
Alors, l'album se termine sur un énorme cliffhanger.
Exactement.
Je sens que la France entière attend la suite. donc, je peux pas... Voilà.
Faut
que je...
Okay.
Donc oui, a priori, j'aimerais déjà terminer l'histoire en cours. Et puis après, ça pourrait faire une série, je sais pas.
En tout cas, c'est un personnage qui te tient à cœur.
Ouais, voilà. J'adore le perso, j'adore l'univers. Bon, il y a beaucoup de trucs qui me donnent envie d'y retourner, quoi. Après, là, je viens de le sortir, c'est qu'on sort un album.
Oui, évidemment, t'as pas envie qu'on te parle de la suite. T'es évidemment. Évidemment. Mais ouais. Je me demandais si t'avais peut-être, ça pouvait être une franchise. Sans quoi, il y a Man dans le titre.
Ouais.
Généralement, il y a au moins un 2 ou un 3.
Hein. Ouais, c'est vrai,
tous les super-héros, même si c'est pas un super-héros. Mais tu vois, il y a souvent des volontés de créer des franchises comme ça.
Ouais, exactement. Ouais, bah après, je sais pas. J'ai envie de me faire plaisir avant tout, donc mais il y a du gros potentiel de plaisir dans ce perso, c'est sûr.
Tu disais qu'au début quand tu l'as fait, tu l'as auto-édité tout seul, les maisons d'édition n'ont pas voulu. Est-ce que c'est un milieu qui est compliqué justement? Est-ce que c'est compliqué d'y rentrer quand on est auteur de bande dessinée? Est-ce que c'est un milieu fermé?
Moi j'ai vraiment eu de la chance, c'est-à-dire que quand j'ai fait Banquet, en fait non, je vais dire ça, mais j'ai galéré quand même pendant une dizaine d'années avant de trouver vraiment un éditeur qui soit... Bah là, c'est Hachette, donc c'est une grosse maison. Après, j'ai eu la chance d'avoir une sorte de mécène qui s'appelle Xavier Clergerie, que je salue, qui est un mec qui m'a fait confiance et qui m'a commandé des albums, alors qu'il n'avait pas du tout de pied dans l'édition et tout ça. Il avait envie de donner vie à un personnage qui s'appelait Jean-Louis, qui était un il m'a dit tu fais ce que tu veux, la seule contrainte c'est qu'il doit être amnésique et poursuivi par des extraterrestres. Donc je me suis lancé, c'est un peu aussi ça qui m'a mis le pied à l'étrier, parce que du coup il m'a commandé des trucs, ça m'a permis de vivre et de surtout de travailler, parce que ce qui est important c'est de travailler, trouver son style et tout ça. Et donc lui je lui dois énormément, et ça m'a permis de m'exercer avant de rentrer un peu dans une maison d'édition plus conventionnel.
Ça fait deux fois que tu parles de trouver son style, et moi c'est quelque chose qui me fascine. C'est à quel moment on trouve son style justement? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, où tu l'actes, tu dis ça c'est mon style? T'arrives à le formaliser, à le conscientiser?
Ouais, c'était rue du Cherche-Midi.
Vraiment?
Circa 2016, je pense. C'est la vérité.
Incroyable.
Et en fait j'ai eu une vision, vraiment j'étais en train de marcher dans la rue et je me suis dit putain, je vais inventer un style qui va être à la fois potache, rigolo et tout ça, mais qui graphiquement sera méga sharp, comme un peu peuvent être des logos ou des trucs de design. Et je vais mélanger ces deux trucs qui n'ont jamais vraiment cohabité. Le graphisme, c'est un truc assez sérieux, fait par des mecs avec des cols roulés. Et pas forcément fun, alors que je trouve qu'il y a un potentiel de rigolo dans les formes. Voilà, l'album s'appelle Karéman, c'est une forme géométrique très basique. Et je voulais mélanger l'humour, qui est souvent associé à un dessin un peu dégueu, à quelque chose de très très propre et très graphique.
Bon. Rue du Cherche-Midi, en tout cas, si vous voulez trouver votre style, allez vous balader là-bas.
Il y a une plaque maintenant.
Je te le souhaite. Bon, je propose, si ça te va, qu'on t'écoute.
Ouais.
Qu'on te voit jouer, enfin, qu'on t'écoute. Jouer le morceau Céleste.
Yes.
C'est un morceau. Est-ce qu'on peut raconter le contexte derrière ce morceau?
Alors, il y a un mois, je viens d'avoir une petite fille.
Félicitations.
Donc cette chanson est sortie naturellement de moi comme une source de vie.
Bon, et ben je te
gros big up à Céleste. Je vais lui faire une petite chanson.
Big up à Céleste, et ton papa va chanter un morceau pour toi maintenant à la radio. Je t'en prie, si tu veux rejoindre tout de suite Théophile Sutter, donc il va interpréter le morceau Céleste pour sa petite fille.
Pourquoi les dessins? Pourquoi les chansons? Et pourquoi tout le reste? Alors que les saints chantent à l'unisson tes louanges célestes. Céleste, c'est l'estime que j'ai pour la vie qui reste quand je serre tes doigts tout petits. Reste, reste, céleste. Pourquoi les intrigues, la vie de flambeur, les dollars pleins la veste, alors que t'irrigues de baume mon cœur au moindre de tes gestes. Céleste, céleste d'Éden, ton pays, je proteste quand faut s'en aller, je m'écris, je reste, reste céleste. Les années, et pourquoi demain faudra-t-il que tu grandisses? J'aimerais te garder au creux de mes mains, j'aimerais que rien ne finisse. Céleste, ça passe en un instant la vie, je conteste, j'aimerais qu'ensemble pour l'infini on reste céleste.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était Théo Sutter, donc, avec le morceau Céleste, en hommage à sa petite fille.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Le morceau, donc, s'appelle Céleste, il est en hommage à ta fille.
Ouais.
Ouais, c'était rapide. Hein. Tu sors là, tu viens faire le live, tu reviens
américaine
tout de suite. Exact, c'est un light show, c'est plus ou moins light show ici. Bon, là, c'est... Parce que moi aussi, je suis papa.
Ouais.
Donc là, je vois la chanson, mais en vrai, t'es fatigué, dis la vérité.
Ouais, ouais.
Là, moi, là, tu dors pas la nuit.
Bah, je suis content d'être là, parce que ça m'a fait une excuse pour me barrer de
oui,
la part.
C'est ça la vérité sur les premières semaines.
Non, mais ça va. Elle est très sage, et puis on lui donne des somnifères, donc.
Ah, bah voilà.
Tout va bien.
Éducation positive.
Ouais, c'est ça.
Très bien. Bon, je voulais apparaître, toi, parce que du coup, on vient de le voir, t'es un auteur de bande dessinée, mais t'es aussi un musicien. Et je me suis dit, j'avais envie de parler avec toi d'autres auteurs de bande dessinée qui ont aussi touché à d'autres choses. Ça permet aussi peut-être de parler de gens qui ont pu t'influencer ou pas. D'ailleurs, je sais pas si c'est des gens que tu as énormément suivi, dont tu as énormément suivi le travail. Je voulais commencer avec Zep. Zep, c'est évidemment Titeuf, un phénomène générationnel, un personnage ultra populaire, très identifiable, presque devenu un objet culturel autonome. Mais derrière ce succès massif, il y a un autre Zep, un peu plus discret, plus fragile, car Zep a aussi été musicien, guitariste, auteur-compositeur. Il a sorti plusieurs albums, loin du ton de Titeuf, des chansons parfois sombres, parfois introspectives, mais souvent humoristiques. Il a eu deux groupes dans sa carrière, Zep & Greg et Bluk Bluk, qui s'est arrêté en 2007.
Légaliser le Cénovis
pour un monde plus rose.
Légaliser le Cénovis
pour vaincre la myxomatose.
Légaliser le Cénovis
pour planer pénal.
Légaliser le Cénovis
pour les tartines Bernard.
Légaliser le Cénovis.
Alors, Théophile vient de me dire qu'il a sûrement même un autre groupe aujourd'hui, donc tu suis sa carrière également musicale.
Alors Zep, c'était quand même surtout mon enfance. Titeuf, ouais. C'était la grande folie dans la cour de récré.
Ouais. Il me semble que toi, ta génération, c'était extrêmement important. Titeuf.
Ah ouais, c'était.
Il y avait le dessin animé aussi.
C'était un peu le Elvis de ma génération.
Si vous êtes pour la houppette.
Voilà, exactement.
Est-ce que Titeuf, qui a été adapté en dessin animé, est-ce que c'est un rêve, une envie, ça, un jour d'avoir une bande dessinée comme ça qui soit aussi.
Ouais, franchement, ça c'est un peu le Graal, quoi.
Ouais.
Ouais. Si des gens m'entendent à Hollywood ou même en France, je prends.
Bon, alors je voulais, on peut changer de profil, parler de Moebius. Donc on change d'échelle. Sûr, Moebius, c'est pas seulement un dessinateur de bande dessinée, il a été dessinateur, évidemment, peintre, illustrateur, designer, concept artiste pour le cinéma, influence majeure dans le jeu vidéo, la science-fiction, l'animation. Son travail, il irrigue Alien, Blade Runner, Tron, Star Wars, sans qu'il soit toujours d'ailleurs crédité au sens strict, parce que Moebius ne faisait pas que dessiner des images, il inventait des mondes, avec vraiment une capacité à penser au-delà du cadre, au-delà de la planche, au-delà même du récit. Donc la BD, c'est évidemment important, mais c'est presque un point de départ chez lui. Et puis certaines de ses œuvres ont été adaptées au cinéma, comme par exemple le fameux Blueberry de Yann Kounen en 2004, une œuvre particulière, mais assez importante, je trouve. Est-ce que ça, Moebius, c'est aussi quelqu'un dont tu as suivi le travail?
Alors, il y a un ami qui compte beaucoup pour moi qui s'appelle Louis Georget, que je salue s'il nous écoute, qui lui était un espèce de maboule de tout ce qui était l'école métal hurlant.
Okay.
Donc, lui, Philippe Druyer.
Ouais.
Tous ces Français complètement cinglés là qui faisaient de la SF de ouf.
Ouais, dans les années
70-80.
Ouais. Il a bossé aussi sur le Dune de Jodorowsky.
Ouais,
qui n'est,
tout à fait.
Qui est une œuvre qui n'existe pas, malheureusement, qui n'a jamais été faite.
Il a fait le storyboard.
Ouais, exactement.
De ouf.
Qui nourrit plein de fantasmes, ce film.
Et voilà. Et en fait, lui, il me montrait, il était fan de ça, il me montrait tous ses albums. Que je trouvais graphiquement magnifique, mais c'est vrai que comme je te disais tout à l'heure, dès que ça se barre un peu trop en SF,
ouais, c'est
quand même philosophico, c'est très, ça sent vraiment le patchouli. Il y a un moment où je décroche un peu en fait, mais par contre bon, c'est pour moi c'est comme Dada ou enfin c'est un mouvement artistique majeur quoi.
Et puis on peut parler aussi de Robert Crumb, donc c'est une autre énergie, une autre époque. Ah, je vois que ça te parle.
Ouais,
notre rapport au corps et au chaos, donc c'est une figure centrale de la BD underground américaine, mais c'est aussi un passionné obsessionnel de musique. Comme toi, blues, folk, jazz, pré-guerre. Il se contente pas d'aimer la musique, il en joue, il collectionne, il archive, il la dessine, il a fondé plusieurs groupes, notamment un groupe qui s'appelle les Cheap Sweet Serenaders. Pardon pour l'accent. C'est le morceau qui s'appelle Oula Medley. Donc il a illustré pendant des centaines de pochettes et surtout il dessine un peu comment on joue de la musique avec du rythme, de la répétition et de la dissonance. Tu disais que t'étais fan de Robert Crumb?
Immense fan de lui.
Ouais.
J'adore. Bon, c'est un génie quoi.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que il a ce rapport à la musique qui moi qui me parle énormément. D'autant plus que c'est un style de musique qui me parle aussi. Mais
oui.
En fait, là où je m'identifie à lui, c'est que lui-même était obsédé par une époque qui n'était pas la sienne. Bon, dans son cas, vu qu'il a connu les années 60, c'était les années 30, 20-30, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais.
Et donc, son travail me parle énormément, ouais.
Est-ce que t'es quelqu'un de nostalgique?
Pas plus que ça, mais c'est vrai que j'ai tendance à vivre beaucoup dans le rêve. Et c'est l'esthétique, surtout, qui me plaît dans ces années-là. Le son, les images... mais après, il y a des choses très bien aussi aujourd'hui. Enfin, je suis pas voilà.
Oui,
je suis pas un nostalgique militant quoi. Je suis un nostalgique poète.
Un rêveur, poète. Exactement. On en revient toujours à la poésie. Théophile Sutter est avec nous jusque 23h. Et Théophile, depuis le début, on parle de beaucoup de personnes, de toi évidemment, mais aussi quelques-unes de tes influences. Et je voulais peut-être qu'on parle de quelques-unes de tes références. Alors, t'as cité les Beatles, et je crois que il y a les Beatles, mais il y a aussi Paul McCartney qui est important pour toi. Et on peut écouter un extrait. Grandma, récemment, je recevais Clara Luciani qui disait aussi à quel point c'était pour elle peu l'artiste ultime, en tout cas son artiste ultime. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi? Ouais. Et pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui représente de si important pour toi?
J'ai l'impression que c'est à la fois un dieu et mon meilleur ami, quoi. Je, en fait, je trouve que c'est un mec, c'est un génie comme il doit y en avoir tous les 400 ans, quoi. Musicalement, bon, c'est un quasi sans faute, quoi. Je veux dire, les Beatles, c'est gigantesque. Sa carrière solo est excellente. Ouais. Il a un sens de la mélodie qui, moi, ça me brise. Enfin, c'est, je veux dire. Et je trouve que humainement, surtout, c'est un mec en or, quoi. Je trouve que justement, il a réussi à garder une forme de simplicité, de droiture qui me parle énormément. Je trouve que c'est un mec qui, sans en avoir l'air, en fait, est vraiment un monument, quoi. J'aime ce gars, quoi. Si tu m'entends, Paul, je te kiffe.
T'aimerais le rencontrer ou pas, justement? Est-ce qu'il faut rencontrer les gens?
Si t'as son numéro, on l'appelle direct.
Non, vraiment.
Maintenant.
Moi, à part des rappeurs français, très peu de numéros dans mon répertoire. Ouais. Mais est-ce qu'il faut rencontrer les gens qu'on admire autant, à ton avis?
Alors moi, je l'ai vu, je l'ai rencontré sur scène, quoi.
Ouais.
Dans le public, malheureusement, j'ai pas encore joué.
T'as pas été en loge, ouais.
C'était des moments magiques. J'ai vu à l'Olympia en 2007. Et il a commencé le concert en sortant du rideau, sans que le rideau se lève. Il a joué une chanson qui s'appelle Blackbird, tout seul. Mais les gens ont pété un câble. Et après, tout le monde a fermé sa gueule. Enfin, c'était un moment c'était magnifique. Et je pense pas que je serais déçu si je le rencontrais, parce que encore une fois, humainement, ce mec me plaît énormément.
Autre, je crois, figure et référence, Hergé.
Ouais.
Pourquoi, évidemment, Tintin, c'est important. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a pu t'influencer, ça aussi? Tu me dis que t'as beaucoup lu ça, regardé ça quand t'étais gamin, peut-être?
Enfant, à fond. Ouais. Et pour le coup, je trouve que graphiquement, il y a une perfection qui est comparable à celle d'un peintre. Pour le coup, on parlait d'hiérarchie un peu, là, donc je me contredis. Mais, mais c'est vrai que pour moi, c'est un des artistes graphiques, un des 10 qui compte vraiment au XXe siècle, quoi. Je trouve que au niveau de la couleur, des compositions, de tout, c'est magnifique. Enfin, c'est.
Ouais. Est-ce que t'as un album qui t'a plus marqué que les autres dans Tintin? Parce que pour le coup, tout le monde a lu Tintin.
J'aimais beaucoup Tintin en Amérique. Vraiment, alors gros.
Toujours l'Amérique,
ouais.
En fait.
Ouais, l'Amérique. C'est ça. L'Amérique de Tintin, c'est du délire. Quoi. Non, mais vraiment, ouais, j'adore.
Est-ce que l'Amérique te fait rêver aujourd'hui, ou c'est vraiment un souvenir, voire même une certaine image de l'Amérique, ou est-ce que t'as encore, toi, cette espèce d'attirance, d'ailleurs, d'une génération un peu plus âgée, mais d'une génération où nous, on a globalement été élevés avec des codes américains, des films américains, des séries américaines, on voulait avoir des casiers, tu sais, au lycée, comme, tu sais, vraiment, on a grandi avec ça. Je suis pas sûr que la jeunesse aujourd'hui ait la même fascination pour les États-Unis que nous, on a eu. Est-ce que tu l'as encore, toi, aujourd'hui?
Alors, moi, je pense que je suis la dernière, la queue de comète, où les States, c'était un peu un truc qui faisait rêver. Maintenant, je pense que j'ai l'impression que les jeunes, vraiment, parce que moi, j'ai quand même la trentaine, donc, ils sont plus genre en mode Asie.
Exactement. J'ai l'impression que la Corée du Sud, plus rêver que Hollywood aujourd'hui.
Et en fait, l'Amérique, c'est aussi, la chanson Aller à LA qu'on a écoutée, elle parle de ça. Elle parle de ce rêve américain qui a un peu disparu. Et en fait, je suis allé à New York l'année dernière et j'ai pété un câble. J'ai adoré. J'ai pété un câble grave.
Alors, c'était la première fois?
Non, j'y étais allé quand j'étais dans une petite chorale de jeunes chanteurs. On avait fait une tournée en Amérique. Mais là, j'y suis allé en mode pour le loisir, quoi. Ouais. Et j'ai pété un câble. Je suis allé voir un concert un soir d'un open mic. Mais les mecs, c'est des malades. Non, mais du coup, ça m'a un peu réconcilié avec l'Amérique d'aujourd'hui, même si elle me fascine beaucoup moins que celle d'il y a 50 ans, quoi.
Après, quand t'as aussi grandi avec plein de références américaines, new-yorkaises, quand tu vas là-bas, à chaque coin de rue, t'as l'impression que c'est une scène de film.
C'est du délire. Enfin, délire.
Des simples escaliers.
Exactement.
Ça te renvoie à un clip ou à un film. Donc voilà, quand t'as été biberonné à ça, c'est un peu particulier, je trouve, d'y aller et de découvrir ces villes-là pour la première fois, quoi.
Et puis ça reste un truc où, enfin, tu regardes les styles des gens dans la rue, ça reste assez fun, quoi.
Ouais.
Ça va, c'est quand même encore assez cool.
Bon, Théophile, je propose qu'on écoute un morceau d'une artiste française, pour le coup, qui s'appelle Mickey, qui a sorti un album cette année. On l'avait d'ailleurs reçu dans l'émission. On va écouter le morceau. Ça pique un peu quand même.
Il y a dans ses yeux de pistache et je peux pas m'y faire. Y'a des bots qui font tout à notre place, à partir un coup quand on a rien à faire. Sourire avec les yeux quand tu sais si bien le faire, bâtard. C'est le monde à l'envers, c'est moi qui me demande si je fais pas tout de travers. Mais j'arrive pas à lui plaire, j'essaie de trouver la femme, y'a rien à faire. Je raccroche mon tel, je me parle à moi-même. Mais de fou, c'était ça que je voulais au début, moi aussi, ouais putain, trop bien. Être pote, c'est ça, ça tombe à pic. Mais c'est pic, 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 un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pic pic, ça me fout la haine. Mais c'est pic pic pic, un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pic pic, ça me fout la haine. Comme un célibataire de 30 balais. Quand ça sonne à ma porte, c'est pour voisin d'en bas. Et même quand c'est la pause, bossez jamais pour moi. Moi je suis là, j'ai des times et des lèvres dans le frigo. Y'en a un peu trop, je pensais que tu viendrais, mais je suis solo. Du coup, je reste dans ta friendzone. Mais c'est pic 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 un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic un peu quand même. Pip pip, ça me fout la haine. Mais c'est pic 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 un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pip pip, ça me fout la haine. Ça fait pic pic pic, pic pic pic, ça fait. Ça fait pic pic pic, pic pic pic, ça fait. Ça fait pic pic pic, pic pic pic, ça fait.
C'était Ça pique un peu quand même de Mickey, présent sur son album Industrie Plante.
Mehdi Maizi sur France Inter.
On est avec Théophile Suter. Théophile, je t'avais demandé des recommandations. Tu m'en as donné plein, mais il y en a plusieurs dont on a déjà un peu parlé finalement. Mais il y en a une, et c'est la première fois qu'on me la donne dans cette émission. Et ça me fait plaisir, car j'aime beaucoup ça. C'est Monsieur Manhattan, programme culte de Benoît Poelvoorde.
Vous savez, ma mère me le disait déjà, hein. Maman, ma mère était une femme merveilleuse, vous savez, grande, élancée, avec de très beaux yeux et des jambes poilues. Oh là 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 là. Elle fut hélas rasée à la Libération, maman. Et elle me disait souvent, Jean, tu n'as pas ton pareil pour faire rire l'Allemand. Et c'est vrai, ma foi. C'est vrai que j'avais ce don inimitable de raconter des histoires à l'occupant, des plaisanteries.
Donc programme culte disponible d'ailleurs hein, sur l'app MyCanal si vous voulez aller, c'est facilement retrouvable et consommable. Ça t'a, qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que tu voyais ça à l'époque ou non? Tu les as découverts a posteriori?
On m'a offert les DVD je pense en 2005.
Ouais.
Et je les ai regardés à mon avis 1000 fois.
Okay. C'était un... Parce que là je voyais que tu connaissais par cœur en fait.
Ce sketch en particulier c'est un de mes préférés.
Okay.
L'enterrement.
Ok.
Non, pour moi c'est du génie quoi. Enfin genre. Ce gars, déjà, c'est un génie comique, je trouve,
ouais.
En termes d'acting. Et c'est très, très bien écrit. Je trouve ça génial.
Est-ce quelqu'un que tu as continué à suivre aussi après ou dans ses films
Ouais, j'avoue que je l'ai jamais autant aimé que dans Monsieur Manhattan. Ouais.
T'avais vu c'est arrivé près de chez vous ou pas
Alors oui. Ouais, ça, c'est la même époque, en fait.
Oui, tout à fait.
Et pour moi, vraiment, Monsieur Manhattan, c'était ma référence absolue. Les gens ne comprenaient pas. On était deux à regarder ça avec mon pote Manard.
Ouais.
Et en fait, on montait ça aux gens qui hallucinaient. Mais c'est quoi ce truc? Et il y avait une autre série qu'il a fait juste avant qui s'appelait Jamais au grand jamais aussi, où il y avait moins de moyens, où il était juste avec des photomontages. Okay. Et le même personnage.
Okay.
Et c'était, je trouve ça hilarant. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en humour. Voilà.
Bon. N'hésitez pas à aller regarder ça. Théophile, on a un peu de temps. Mais j'ai envie qu'on en parle, donc c'est l'heure de la question qui tue. La question est très compliquée. Dans Carréman, il y a évidemment tout un amour d'Hollywood. On sent aussi ton intérêt pour le cinéma des années 80, les stars notamment d'un cinéma, un cinéma d'action populaire, hollywoodien, blockbuster. Quelle est pour toi la star ultime du cinéma d'action des années 80?
La réponse est dans la question. Arnold Schwarzenegger.
Je sais pas.
Il n'y a pas de prétendant au titre d'homme le plus stylé des années 80.
Ah oh, si, il y a plus stylé que lui.
Non, mais j'adore, je suis parti. J'adore.
Okay, pourquoi?
Bah, déjà les films. Enfin, bon, Terminator, Conan.
Ouais. Conan qui est un film, enfin, presque sous-côté, je trouve, parce qu'en fait, on le voit un peu comme un film uniquement un peu bourrin, alors que c'est John Milius.
Ah non,
c'est
ouf.
Vraiment un excellent film.
Même l'histoire de la manière dont ils l'ont fait, c'était incroyable. Puis même le gars, quoi. Genre, il est parti de sa campagne avec son accent et son nom à coucher dehors et il débarque. Il y a des anecdotes sur lui, putain, mais.
Et d'ailleurs, il y a toute une. Pardon, hein, mais nous, on a grandi avec des films en VF. Et en fait, il y a toute. Quelque chose qu'on n'a pas, c'est l'accent qu'il avait, qui était quand même assez. Compliqué, en tout cas, inédit dans le cinéma hollywoodien d'avoir un acteur comme ça avec un accent à couper au cordeau qui vraiment ne parlait pas comme les autres comédiens. Et nous, on n'a pas grandi avec cette notion-là de l'accent de Schwarzenegger qui ramène aussi quelque chose dans ces films de cette époque.
Non, ouais, vraiment, je le trouve. Et puis, je trouve que c'est un mec sympa en plus. Pareil que comme McCartney, il a l'air. Je pense qu'il a un peu pété un câble à un moment quand il prenait trop de stéroïdes, mais là, je le trouve assez cool dans sa ferme avec son poney, là.
Tu trouves qu'il vieillit mieux que Stallone?
J'aime bien Stallone, mais je le connais moins bien, en fait.
Ouais. C'est Stallone, alors après, voilà, mais il est complètement trumpiste aujourd'hui. Hein.
Il est parti dans ce. Et je trouve qu'il a un potentiel nanar qui est peut-être un peu plus élevé que Schwarzy. En fait, quand tu regardes sa filmo, le mec est assez chaud. Enfin.
Et aussi, Schwarzenegger, il a toujours su s'entourer des plus grands réals. Parce qu'en fait, il a bossé avec Verhoeven, avec Cameron, avec Peter Yer. Enfin, vraiment, c'est assez, avec John McTiernan. Ouais. Donc c'est assez imparable.
C'est un peu le faux. En fait, il y a un cerveau derrière cette montagne de muscles. Quoi.
Ouais.
Tu te dis, genre, en fait, le gars. Plus malin qu'il en a l'air.
Donc t'es plus Schwarzenegger que Bruce Willis, par exemple?
Oui, même si j'ai beaucoup regardé, parce que ma mère était amoureuse de lui, donc
la mienne aussi.
Quand j'étais,
comme toutes les darons de cette époque.
Quand on était gosse, c'était la cassette de Piège de cristal en boucle.
Ah ouais, exactement.
Et elle trouvait Schwarzenegger affreusement vulgaire. Donc en fait, Schwarzenegger, c'est moi qui suis allé vers lui. C'est pas un héritage de famille.
Et donc ton Schwarzenegger préféré, si tant est que tu en aies un?
J'hésite entre Terminator et Total Recall.
Okay.
Vraiment. Et Conan, enfin bon, je sais pas, c'est impossible.
Mais c'est intéressant parce que c'est de la science-fiction.
Ouais.
Donc, alors que tu disais que t'avais un peu un problème avec la BD qui peut lorgner vers la science-fiction.
C'est de la science-fiction, mais ça parle de notre monde aussi. C'est quand même ancré dans quelque chose de. Ça plane pas. C'est pas de la science-fiction de mecs qui prennent du LSD. C'est des mecs qui font un peu des joints. Ça va. Tu vois.
Oui, c'est compréhensible.
Tu peux les suivre. Le mec, il te met pas un tunnel. Tu vois.
J'ai l'impression que toi, finalement, parce qu'on a parlé de science-fiction, mais que. T'es allé sur des terrains très différents, en fait, dans tes différentes œuvres jusqu'ici. Est-ce que tu pourrais un jour aller sur un terrain comme la science-fiction, comme j'ai l'impression qu'en fait, t'as pas vraiment de barrière sur les terrains que tu peux investir.
Bah, fut un temps, j'avais un groupe de musique qui s'appelait Magnum, où on était déguisés en chevaliers. Et le lore de Magnum se passait dans un monde post-apocalyptique qui était revenu au temps de la chevalerie. Donc, tout se passait dans un univers très science-fiction. Et je caresse l'idée de revenir à ce projet un jour, peut-être par le biais d'une BD ou je ne sais quoi. Mais donc, en fait, c'est aussi des trucs qui m'amusent énormément. Et bon, voilà.
D'ailleurs, il y a un côté chevaleresque aussi dans le carré. Enfin, tu l'as pas perdu, ce truc-là.
Non. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement romantique et les chevaliers, j'avais toujours une épée sur moi quand j'étais petit, en plastique. Mais
tu te baladais à l'école avec une
épée? Je dormais avec. Okay. Et voilà, et j'étais à l'école, on n'avait pas le droit. Mais moi, la chevalerie, c'est quelque chose qui me parle énormément. Ouais.
Pourquoi?
Parce que c'est les grands sentiments. Ma mère me disait tout le temps, il faut être. Ce qu'elle appelait un honnête homme. T'sais. C'est être à la fois capable de se battre, de réciter des vers, de chevaucher crinière au vent et de je sais pas quoi, être porté 50 kilos de métal sur soi.
Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que t'es un adulte, un papa, est-ce que t'as encore, tu sais, des modèles comme ça, d'hommes? Tu sais, parfois, quand t'es des petits, on se construit avec des personnages de films ou des personnalités qui sont connues et on se dit, bon, on s'identifie, on a envie de ressembler à ça plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que t'es un homme, est-ce que tu dis, je veux encore ressembler, tendre vers ça, vers cette personnalité?
Bah, McCartney, hein. McCartney, 20 sur 20.
C'est vraiment un cap, en fait. Hein,
ah ouais, non, McCartney, c'est vraiment ma religion, quoi. Je suis McCartneyiste.
Est-ce que t'as l'impression d'être plus en plus proche de Paul McCartney?
Ouais, franchement, je trouve que ça va. J'ai trouvé ma Linda, déjà.
Ok.
et puis, non, je sais pas, j'ai l'impression de marcher dans ses traces, un peu. Mais Mais c'est un modèle de vie pour moi, modèle de life total. Je, vraiment, quand il va mourir, je vais avoir beaucoup de peine, je pense.
Ouais, comme quelqu'un de ta famille, en tout cas, quelqu'un qui t'a accompagné, ouais. Toi, dans des moments. Ouais. C'est le seul avec qui t'as cette.
C'est vraiment le plus fort. Après, je te dis, il y a d'autres artistes, mais à ce niveau-là, à la fois dans la vie et dans l'œuvre, je peux pas penser à quelqu'un d'autre que lui.
Bon. Théophile Futter, c'était un plaisir
Merci
de t'avoir
beaucoup.
Aujourd'hui, vraiment. On rappelle donc que la bande dessinée Carréman est disponible.
Yes.
En attendant une suite.
Ouais. Commencez par acheter le premier.
Le premier, déjà. Merci beaucoup, vraiment.
Merci à toi. Merci à toi.
Et on te retrouve prochainement, je l'espère. Merci à toutes les personnes ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Alexia Lacour et Redouane Tella. Une émission réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. La technique ce soir, c'était Nicolas Delmas et Guillaume Roux. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, on se retrouvera avec l'humoriste Ilyes Jadel. Pour découvrir, redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France. We'll